Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonsoir et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, nous allons continuer l'écoute de la série Cheminement et Parcours Pro réalisée par Marie Cheneval. Le quatrième épisode s'appelle « Maraîcher, un concours de circonstances ». Bonne écoute.
Maraîcher, un concours de circonstances. Un documentaire de Marie Cheneval. C'est joli.
En mode des épinards.
C'est cool, hein.
Ça bombarde, en plus. Ça bombarde. Bon, après, cette planche-là, dans 2 semaines maximum, je la supprime. Donc là, il faut que je récolte. Il y en a plein qui sont montés à graines. Je vais faire une bonne récolte dessus, là, cette semaine, et la semaine prochaine, puis terminer, quoi. C'est les tomates, elles vont venir ici.
Formation au départ, j'ai passé un bac S. Je vais faire plutôt partir dans l'audiovisuel, puis finalement en BTS, je pouvais pas être pris, j'avais pas de dossier suffisamment bon, quoi. Et l'autre chose, c'était l'informatique qui m'intéressait à l'époque. Et je suis parti en BTS informatique. J'ai fait ça pendant 2 ans. Au final, j'ai même pas passé le diplôme, j'ai pas terminé. J'ai quand même travaillé dedans pour des petites boîtes d'informatique, voilà. Et puis, bon, voilà. Finalement, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas tant que ça. Le côté être assis tout le temps devant l'ordinateur, l'informatique m'intéressait, mais le contexte de travail, ça me plaisait pas, quoi. Et après j'ai fait des petits boulots, je me suis demandé ce que je pouvais bien faire, des petits boulots différents, enfin, voilà, de l'usine, etc. quoi, pendant 1 an et demi, 2 ans. Et un jour je suis tombé sur une formation qui démarrait en tant que projectionniste de cinéma.
Tu prends un truc plus petit dans ta main. Tu remplis. Mm-hmm. T'arrases.
Ok.
Tu remplis, t'appuies un peu quand même. Ça va, là c'est pour de la courgette et du melon. Ça reste pas longtemps dans les godets. Là où il faut faire un peu plus attention qu'il soit bien rempli, c'est quand tu fais tomates, poivrons, aubergines, ça reste plus longtemps. Et moins il y a de terreau, moins il y a à bouffer, quoi. Ouais. Même pour les aubergines et les poivrons, je prends des godets un peu plus profonds.
Que tu les...
Ça y a un peu plus de terreau.
Et
ça,
tu les laisses plus longtemps comme
ouais,
en godet.
Plus longtemps que les tomates. Les tomates, c'est un... C'est un petit mois. L'aubergine et poivrons, c'est plutôt un mois et demi, quoi. Et ça se sent, hein, tu vois, quand tu vas pour les planter, c'est... Il fallait pas moins de terreau, quoi.
Ouais.
Ça va commencer à jaunir.
Et comme moi j'étais déjà bénévole dans un cinéma et que je faisais un petit peu de projection en tant que bénévole, j'ai dit pourquoi pas, ça peut être sympa quoi, en faire son métier quoi. Et donc, j'ai passé le CAP, formation d'un an, et pendant 5 ans j'ai fait des remplacements dans différents endroits, dans différents cinémas, sur toute la France quoi. Et au bout de 5 ans, j'avais fait le tour, j'en ai eu marre, c'est pareil, c'est assez statique, on reste quand même pas mal d'heures assis à attendre un peu que ça se passe, et puis une fois qu'on a fait le tour de l'apprentissage, de la découverte, etc., bon, moi ça a commencé à plus me convenir, et je me suis retrouvé encore dans cette situation, bon bah c'est bien, tu sais que tu veux plus faire ça, mais qu'est-ce que tu veux faire quoi. Et voilà, pas de réponse. Je me suis dit, bon, bah, pas de réponse, je vais faire une autre chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est voyager. Donc, je suis parti en voyage au départ, c'était prévu 3 mois pendant l'été. Et ça s'est arrêté 3 ans plus tard. Voilà, entre entre-temps, voyage en Asie, en Europe de l'Est, et en Australie, où j'ai découvert le woofing. À l'époque, ça allait toujours, c'était plus développé qu'en France, en Australie. Là-bas, ils avaient déjà pas mal d'années derrière eux de woofing, c'était très répandu, il y a beaucoup de gens qui vivent du woofing, beaucoup de lieux de woofing. Et ça m'a permis de toucher un peu à la, pas forcément à l'agriculture, mais au jardinage, à la permaculture, de me renseigner sur ce qu'était cette fameuse permaculture dont on parle tant aujourd'hui, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Là, c'était en 2009. Et là-bas, c'est originaire de là-bas, je crois, la permaculture. Donc on parlait pas mal là-bas. Et donc, ça donnait un peu une vision, on va dire, un peu plus ludique du jardinage et éventuellement même de l'agriculture professionnelle. Et quand j'ai décidé d'arrêter de voyager, parce que j'en avais un peu marre aussi de voyager, là, finalement, j'avais fait le tour, c'était comme avec le travail, à un moment donné, ben, on sait plus trop pourquoi on le fait, il n'y a plus de raison. Donc je suis rentré, j'ai fait une formation de permaculture, là, une dizaine de jours, pour essayer d'approfondir dans cette direction-là. J'ai fait du woofing aussi en France. Et puis, de woofing en woofing, je suis passé par l'idée de peut-être approfondir et devenir maraîcher, de devenir paysan boulanger, ensuite maraîcher, ensuite paysan boulanger. Mais bon, voilà, tout ça sans avoir le déclic quand même de se lancer, c'est quand même assez lourd. J'avais déjà l'idée que c'était assez lourd de s'installer, quoi. C'est un gros investissement et financier et personnel. Et puis j'avais pas encore les compétences. En fait, à un moment, je suis arrivé en woofing dans un lieu collectif en Dordogne. Et dans ce lieu-là, il y avait plus personne qui s'occupait du jardin. Qui avait des zones de jardinage qui avaient été créées, mais il n'y avait plus personne qui s'en occupait, la personne qui s'occupait de ça, elle était partie. Donc moi j'ai décidé de reprendre le jardin et de faire mes premiers arbres. Voilà, j'ai jeté des graines, j'ai commencé à faire des plants, j'ai commencé à planter, à louper plein de trucs. Voilà. Et en parallèle, je me suis lancé sans savoir si j'allais l'utiliser ou pas, mais j'étais au chômage et tout mon temps n'était pas occupé sur le lieu collectif. Donc j'avais pas mal de temps disponible. Je me suis dit, bon, autant mettre ce temps-là à profit pour faire une formation et puis on verra si je l'utilise ou pas. Et donc j'ai passé le BPROA, le brevet de responsable d'exploitation agricole, à Périgueux. Donc ça, c'était formation de 9 mois avec des stages en maraîchage, un contenu théorique. Et voilà. Et ça, c'est une formation qui donne après la possibilité, une fois qu'on a le diplôme, qui facilite l'accès aux terres et qui donne la possibilité d'avoir des aides à l'installation. Bon, voilà. Donc j'ai eu ce diplôme. À la fin, j'étais toujours pas sûr de m'installer, ou je crois que même j'étais sûr de pas vouloir m'installer, vu ce que j'avais vu en stage, mon maître de stage qui travaillait comme un cinglé, des heures de dingue, qui avait le temps de rien faire d'autre, bon, qui s'en sortait, on va dire, financièrement, mais qui avait une vie personnelle assez compliquée, on va dire.
Ouais, cette année, ça a bien marché. L'année dernière, j'en ai quasiment pas eu.
Mais
cette année,
ça fait rêver.
Ça a bombardé. Moi, les épinards, ça me saoule au bout d'un moment. J'en mange tellement que...
Ah ouais, ouais. Pour moi, c'est de l'or vert, ça. Non, c'est vrai, c'est tellement... Ça réduit tellement...
Tu sais, je les achète pas, donc ça n'a pas la même valeur. Quoi.
Peut-être pour ça.
Moi, je les produis, bien sûr.
Tu dois avoir ton congélo plein d'épinards.
J'ai pas de congélateur.
Ah oh, putain, sérieux.
Moi, je me suis rendu malade là, la semaine dernière à bouffer des épinards. J'en ai mangé beaucoup trop. Quoi. J'ai dû bouffer un kilo d'épinards sur 3 jours. 2-3 jours, quoi. Et ça m'a filé un mal de bide, laisse tomber. Quoi.
Tu chopes un congélo, c'est pas possible.
Bon, j'ai pas vraiment besoin en fait, j'ai toujours des trucs à bouffer quoi. Quand c'est pas les épinards, après c'est les courgettes, les tomates, les concombres, machin, puis après bah, ça revient à les épinards. Et... Je mange ce qu'il y a quoi, du coup.
Tu vis avec les saisons, quoi.
Je vis avec les saisons, oui, c'est ça.
Franchement, tu manges local, de saison et en bio, quoi. Franchement, ouais. Est pas belle la vie.
Et oui, il y a toujours à bouffer.
J'avais plus de droit au chômage, j'étais passé au RSA, je savais du coup encore pas quoi faire. À ce moment-là, je me disais non, je vais pas m'installer, mais bon, je suis quand même parti dans cette direction-là, donc on va essayer de voir, rencontrer d'autres personnes, approfondir. Finalement, je me suis dit peut-être je pourrais m'installer. En fait, il commençait à exister des endroits là en France qui sont des, qu'on appelle des couveuses agricoles ou des espaces tests, qui permettent de se tester pendant un an, deux ans, jusqu'à trois ans, sans faire de gros investissements et sans faire même presque d'investissement, et il faut acheter juste le petit matériel, etc. Là, c'était donc à Gaillac, et c'est un lieu où il y avait déjà bâtiments, des serres, les tracteurs, le gros matériel, etc. Donc grosso modo, il fallait avoir entre 4-5 000 euros à investir au départ dans l'achat de semences, de différents petits matériels, etc. pour débuter, quoi. Et donc j'ai fait ça à l'époque avec mon ancienne compagne. Donc on a fait ça pendant un an et demi. Pendant cette période-là, on a rencontré un autre couple qui, eux, étaient en formation de paysans boulangers. Et eux, ils voulaient s'installer en Bretagne. Et puis bon, on s'est bien entendu avec eux. Puis on a commencé à discuter de peut-être s'associer. Du coup, ça résolvait mon problème de m'installer tout seul, parce que principalement le souci c'était de s'installer tout seul. Vous voyez la lourdeur du truc, quoi. Et là, le fait de s'associer avec eux, ça pouvait faire passer le truc, quoi. Donc on a arrêté la couveuse. On est parti en Bretagne, sûr de nous qu'on allait trouver des terres, etc.
Ouais, il fait mal au dos surtout.
Je suis croquant et juteux.
Et en fait, c'était en plein hiver et on faisait du woofing pendant ce temps-là. On a cherché à se loger aussi, on n'a pas trouvé. Il pleuvait, il faisait froid, c'était vraiment pas des bonnes conditions. On a visité des choses, mais bon. Voilà, ça pouvait pas se faire en si peu de temps. De toute façon, voilà, on avait mal appréhendé le truc, quoi. Du coup, il y a eu une grosse démotivation au bout de deux ou trois mois et on a abandonné le projet. On est redescendu dans le Tarn. De là, boulot en maraîchage, recherche de terre de notre côté. Finalement, on s'était mis dans l'idée de s'installer. Donc, oui, il n'y avait plus les associés, mais bon, on est parti dans le truc de recherche de terre. On dit, bon, c'est pas grave. On cherche quand même pour nous, quoi. Et voilà, on cherche des terres, on voit plein de trucs, il n'y a rien qui va. Bon, est-ce qu'on est trop exigeant ou pas, on ne sait pas. Au fur et à mesure, ça s'affine. Je trouve qu'avec le recul, on n'avait jamais vraiment vu des choses suffisamment intéressantes pour aller dessus, quoi. Au bout de deux ans, donc pendant lesquels j'ai fait du salariat, des coups de main, bénévolat, etc., pas mal de salariat. Un jour, il y a eu cette proposition de terre là dans l'Ariège où on ne cherchait pas du tout. On l'a su par des amis, quoi, et on est allé voir, et puis ça correspondait pas mal quand même. Et voilà, donc la question là c'est vraiment posé. Bon, on s'installe pas, là ça correspond. Et pendant le temps que cette question s'est posée, on s'est séparés finalement, parce que c'était suffisamment lourd comme épreuve pour que ça ramène d'autres problématiques, etc. Trop engageant, quoi. Donc on s'est séparés, donc ça a été à moi de me poser la question, est-ce que je m'installe pas. Et au bout de 2-3 semaines de réflexion, de pas très bonnes semaines, en plus de la séparation, j'ai décidé de m'installer. Donc de faire exactement ce que je ne voulais pas faire au départ. Mais les années étant passées, les expériences les unes à la suite des autres m'ont amené à faire ce que je voulais pas faire. Enfin, ce que je voulais pas faire il y a 2 ou 3 ans avant, quoi. Et en sachant toutes les difficultés, etc. Mais bon, je me suis dit, bon, de toute façon, là, maintenant, je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? Je tente le coup. Si ça marche pas, tant pis. Et puis, on verra bien, quoi. Et voilà. Et donc, je suis arrivé en janvier 2018, ici, à la Bastide de Besplas, en Ariège, où je ne connaissais personne, en plein hiver. C'est des concours de circonstances qui m'ont amené là, d'une prise de conscience fin de formation que je voulais a priori pas faire ça, que je voulais pas m'engager dans quelque chose d'aussi lourd, qui me prendrait tout mon temps, tout psychologiquement, c'est très difficile aussi, quoi. Puis toute cette gestion, quoi, avoir tout à gérer tout seul, c'est compliqué, sachant que derrière, les revenus, ils sont vachement incertains. Il y a énormément d'agriculteurs et de maraîchers qui galèrent pendant des années pour financièrement toujours galérer, même au bout de 10 ans, quoi. Donc la question, elle se pose quand même. Parce que si on se dit, bon, allez, ces gros investissements pendant 2 ans, dans 3 ans, j'en chie, mais après, je peux me reposer, et puis j'ai lancé l'affaire, et puis être confortable au niveau des revenus, bon, pourquoi pas, on sait vers où on va, quoi. Sauf que là, en fait, on sait pas. Il y a plein d'exemples qui montrent que ça marche pas comme ça, que les gens continuent à galérer. Après, il y en a d'autres aussi pour qui ça va, mais la tendance, quand même, c'est que même quand ça va, pas beaucoup de temps de disponible, quoi. Pas de vacances, ou très peu, pas de week-end... Donc voilà, ça se pose. Plus la difficulté physique, est-ce que je vais être capable de tenir entre le faire en stage, en salariat, pendant 1 an à la couveuse, et le tenir pendant 10 ans ou plus, c'est vachement incertain, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'au bout de 3 ans, économiquement, ça tourne. Tant qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle majeure.
Je le sens. Et ouais, parce que du coup, employer quelqu'un, c'est possible.
Ouais. Non, en fait, je peux pas le payer. Je sais pas
non,
encore.
Non, mais...
Chèque en bois.
Chèque, ouais.
Je vérifie pas mes comptes, en plus.
Oui, ça passe. Ouais.
Je suis content.
Là, à mi-temps, comme ça, sur 6 mois, peut-être un peu plus, on va voir. Ça passe, ouais. Ça passe. Et ça va faire 3 ans à la fin de l'année que je suis installé. Et dont la première année était aussi était l'installation de tout le matériel, de l'irrigation, des serres, etc. Donc c'était pas une année de production à part entière. Donc les vrais, il y a vraiment eu, je suis vraiment là, moi j'estime, sur la deuxième année d'exploitation, si j'aime pas trop ce mot-là, de travail sur ce terrain-là, c'est la deuxième année réelle, quoi, on va dire. Et au bout des 2 ans, là, on va dire, financièrement, ça fonctionne. Moi, je me sers un salaire. Un petit peu plus que le SMIC. Bon, si on ramène ça au nombre d'heures, ça fait moins qu'un SMIC horaire. Mais pour vivre, on va dire que c'est très bien. Enfin, moi, ça me va très bien. Et en plus, cette année, j'ai pu embaucher quelqu'un à mi-temps sur toute la saison, là, donc pendant 6 mois. Ce qui m'a permis de me dégager un peu plus de temps, surtout pendant l'été, et de moins forcer au travail, quoi. Voilà. Et puis psychologiquement, c'est quand même vachement plus agréable de travailler à deux, surtout sur des tâches un peu répétitives et difficiles, que d'avoir à se les faire tout seul. Voilà, on se motive à deux, on se lance, on va jusqu'au bout. Tout seul, des fois, c'est plus difficile, quoi. Faut un peu plus le moral, quoi.
Ça tient.
Ça tient.
Là, t'as vendu moitié betterave, quoi. Hop. Quatre caisses. 30 kilos.
Allez.
25.
Il y a une forme de sacrifice. C'est sûr que là, les deux premières années d'installation, t'as le temps de rien faire d'autre. En fait, t'es bouffé par ça, quoi. Et même encore aujourd'hui, c'est une pensée permanente. Parce que derrière, il y a une passion aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, je pourrais m'arrêter. Je me dis, oh, ça marche bien comme ça. Je refais pareil l'année prochaine. Parce qu'en fait, il y a toujours l'envie de faire mieux, d'améliorer par passion, par intérêt pour ce que je fais, mais aussi pour diminuer les temps de travail, améliorer le fonctionnement, quoi, en fait, l'ergonomie ou voilà. Donc oui, ça me prend beaucoup de temps. Alors d'un côté. C'est sûr que ça me bouffe certains jours. J'aurais envie de faire autre chose. Alors moi maintenant, mais c'est vrai, les deux premières années, il y a plein de fois où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait, c'est débile en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être se prouver que tu es capable de le faire, mais en fait à quel prix quoi. Là, tu déprimes le jour où pendant une semaine tu vois personne, tu es tout seul, il pleut, t'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Tu vois que tu vas avoir rien à vendre sur le marché, ou en tout cas tu crois, des fois ça prend des proportions dans la tête, c'est, voilà. Et t'as envie de tout arrêter. Et je pense que, moi, d'après ce que j'ai pu entendre chez d'autres maraîchers, presque tous les maraîchers, au moins une fois ou deux par an, ils se disent « c'est bon, j'en ai marre, je vais tout arrêter ». Parce que ça tient tellement à pas grand-chose, c'est beaucoup de travail, et à tout moment on peut tout perdre, ou presque. Une grêle, une grosse tempête, une inondation, on peut tout perdre. Les événements extérieurs, après il y a les maladies, on fait tout ce qu'il faut. Et puis finalement la culture, bah, jamais on va la ramasser. Parce que voilà, ça a été détruit par une maladie ou une autre, un insecte. Il y a quand même pas beaucoup de métiers où tu travailles, et en fait au bout il n'y a rien. C'est, l'agriculture c'est ça quoi. Tu travailles, au bout... On sait pas. Tant que c'est pas vendu, que c'est pas récolté, amené au marché ou au panier, et que l'argent il est dans la poche, je veux dire, eh ben rien n'est gagné quoi. Et le processus il est long entre l'un et l'autre, entre le semi de la graine et le client qui paye au marché, il y a du chemin quoi. Et pendant tout ce temps-là, il peut se passer plein de choses. C'est psychologiquement c'est très difficile. Quoi.
Écoute le bruit du terreau.
C'est une fuite. Le changement, ce serait peut-être une association avec quelqu'un d'autre qui ferait que ben, voilà, on pourrait se partager un peu le temps de travail et se libérer des week-ends, se libérer pour des vacances. Bon, pour l'instant, c'est pas en vue. D'autre part, comme j'ai pris les aides à l'installation de la Chambre d'agriculture, du département, de la région, de l'Europe, etc., je suis engagé pendant encore 2 ans à rester exploitant agricole. Et si je le faisais pas, ben, je ne sais pas ce qui se passerait. Menace de récupérer l'argent. Bon, voilà. Bon, moi, quelque part, j'ai pas envie non plus d'abandonner maintenant. Ce serait un peu court, quoi. Rester, du coup, ça me ferait rester exploitant agricole pendant 5 ans au total. Je pense que c'est un minimum pour se dire bon, voilà, j'ai fait ça. J'en ai fait un petit tour, on ne va pas dire que j'ai fait le tour de tout, mais j'ai fait quand même 5 saisons. Sur 5 saisons, ça s'est bien passé, ça s'est éventuellement amélioré. J'ai travaillé de moins en moins, j'ai amélioré la chose, j'ai fait un petit tour du truc, j'ai appris des choses. À ce moment-là, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Si j'ai pas trouvé donc les moyens de prendre des week-ends, au moins un week-end sur deux, et prendre des vacances, je pense que j'arrêterai. Parce que j'ai pas vocation à me faire martyr de la défense environnementale. Et j'aurais fait ma petite contribution, j'aurais amené le lieu à être viable et transmissible à quelqu'un qui pourra le reprendre en tant que tel et repartir non pas de zéro mais de quelque chose de viable. Donc je serais assez content de ça. J'aurais participé à ça, il n'y aura pas rien derrière. Moi j'aurais appris des choses, je me serais testé dans ce truc-là. Et après, ben, je sais pas, des fois c'est vrai que j'y pense, hein. Je me dis, bon, il faut peut-être y penser maintenant. Si jamais je dois arrêter dans 2 ans, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et ça se trouve, dans 15 ans, je serai encore là. Je n'ai aucune idée, on ne connaît pas l'évolution.
Mais c'est dur, les melons aussi. Hein.
Ouais.
Ça a besoin de beaucoup d'eau, non?
Pendant la croissance, oui, mais bon, raisonnablement. Et par contre, il faut faire attention à leur couper l'eau quand les fruits ils ont commencé un peu à grossir.
Ah, parce que sinon ça devient plein de flotte et ça.
Alors, il y a ce risque que ça devienne plein de flotte, mais il y a surtout le risque qu'ils éclatent.
Ok.
En melon hybride, ils ont un peu résolu ce problème-là à leur manière. La plupart, ils éclatent pas. Mais en melon population là, comme cela, eh bien, on a beaucoup ce problème. Donc sous serre c'est plus facile à gérer parce que bah, du coup tu peux gérer l'arrosage. Dehors c'est un peu plus compliqué. S'il se met à faire une grosse pluie au moment où ils sont proches de la maturité, ouais, il y a tout qui éclate. Ceux-là ils vont en serre. De toute façon, j'en fais plus dehors. J'en fais plus dehors. J'en ai refait l'année dernière, c'était la catastrophe. Donc là, j'en fais plus dehors, je fais tout en serre.
J'ai plus son nom, là. Économiste. Ah, Bernard Friot. Le travail, c'est pas l'emploi. On va commencer par ça. Et le travail, c'est toute forme d'activité humaine. C'est toute forme d'activité humaine. Qui servent à la société, et la société peut des fois se limiter juste au milieu familial. Donc le travail, c'est aussi même faire des choses, même pour soi, ça peut être c'est du travail aussi, quoi. Ça, c'est la notion fondamentale du mot travail qui est pas à mélanger avec l'emploi. L'emploi, c'est le travail qu'on fournit dans un contexte de production rémunéré. Voilà. Du travail, il y en a partout, tout le monde travaille, il n'y a pas de gens qui ne travaillent pas, en fait, personne ne peut pas travailler, en fait, personne ne reste à rien faire, ou alors, s'il reste à rien faire, c'est parce que peut-être aussi, des fois, la société... Je pense que naturellement, l'être humain, il doit faire des choses. Il fait des choses, on a toujours envie de se rendre utile, quoi. Après, des fois, les contextes économiques et sociaux nous amènent à nous ralentir, parce qu'on nous dit qu'on ne vaut rien, etc. Ou parce qu'on trouve pas notre place, parce qu'on doit trouver notre place dans l'emploi, et on trouve que ben, on pense que le travail c'est l'emploi, parce que c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend partout, le travail c'est l'emploi, l'emploi c'est le travail. Donc quand on trouve pas d'emploi, eh ben finalement on travaille pas, donc en fait on sert à rien, de toute façon on te le dit bien, quoi. Quand tu travailles pas, quand t'as pas d'emploi, tu ne sers à rien. Et on se rend pas compte, il y a plein de gens qui n'ont pas d'emploi, qui font des choses chez eux, qui font des choses pour d'autres, qui font des choses, que ce soit associatif ou... Ben, travailler comme maraîcher, c'est... Comme on disait tout à l'heure, ça amène à une certaine forme d'asservissement, mais en même temps, clairement, j'ai pas de patron. Je suis mon propre patron. Alors des fois, je m'en veux d'être mon propre patron, mais et de m'imposer ça. Mais c'est clair que les décisions, c'est moi qui les prends, c'est personne d'autre. Donc ça, c'est une forme de liberté, et c'est là en fait où on se rend compte que peut-être on n'est pas suffisamment préparé à ça. La liberté, elle a toujours un coût. Il n'y a pas qu'une bonne face à la liberté, en fait. Il y a un côté pile qui est « Ah ouais, super, la liberté, c'est magique, c'est super, je peux faire ce que je veux, je suis libre de toute contrainte. » Ouais, la liberté, c'est la liberté d'avoir à se mettre soi-même ses propres contraintes, quoi. Et donc du coup, on les choisit, on a la liberté jusque-là, mais la liberté est toujours faite de contraintes. Et après, le boulot, c'est d'arriver à faire en sorte que ces contraintes, elles sont les moins difficiles à vivre possible, quoi. Et que ce soit fait de maximum de plaisir. Et il faut les accepter, en fait. Quand on n'accepte pas les contraintes, c'est là qu'elles sont difficiles. Et après, quand on les accepte, quand on les comprend et quand on les accepte, ben, ça fait partie du processus, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne.
Je réfléchis trop.
C'était Maraîcher, un concours de circonstances. Merci à Frédéric Sell pour son témoignage.
Écoutez Maraîcher, un concours de circonstances, le 4e épisode de la série Cheminement et Parcours Pro, réalisé par Marie Cheneval. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission Retransmission sur le site de jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez Chemin d'Afrique par Calomé. Bonne soirée sur JetFM.